Saga présente L'engrenage du mal de Nicolas Feuze et lu par Baptiste Chalmel. Nous sommes désormais dans un moulin à eau, un moulin souterrain. Bien au-dessous du sol mugit un torrent. Personne là-haut ne s'en doute. L'eau tombe de plusieurs toits sur les roues qui tournent bruyamment et menace d'accrocher nos vêtements et de nous entraîner avec elle. Les marches sur lesquelles nous nous trouvons sont usées et humides. L'eau ruisselle des murs de pierre et, tout près, s'ouvre l'abîme. Hans Christian Andersen, Voyage en Suisse, 1836. Prologue. Après avoir craché du sang, la montagne avait vomi des corps. Depuis le début de la semaine, un été caniculaire s'était abattu sur le Jura. La touffeur envahissait la Suisse romande et un bon quart nord-est de la France. Tout le monde cherchait la fraîcheur et on voyait des grappes de marcheurs qui gagnaient les forêts et les bords ombragés des rivières. Ce jour-là, la famille d'Edviller avait préféré les côtes du Doubs aux gorges de la Reuse, assaillies par les promeneurs. Jean-Marc avait garé sa vieille Bentley décapotable au bord de la route dans un lacet de Bourg-dessous. Ils avaient gagné le saut du Doubs à pied, depuis le village des Brenets. Une bonne marche pour les deux enfants de 8 et 10 ans. Mais comme le leur avaient expliqué leurs parents, une torée se méritait. La torée est une tradition du canton de Neuchâtel, le prétexte à une promenade. On fait cuire sous la cendre du saucisson et des pommes de terre. Mais cette fois, il faisait trop chaud pour faire un vrai feu.
« J'ai chaud !» répéta la petite fille.
Sa mère chercha à détourner son attention.
« Tu vois, Elisa, de l'autre côté de la rivière, c'est la France. La frontière passe au milieu de l'eau.
« Comment font les douaniers s'il n'y a pas de barrière ?» demanda Nicolas. « Ils ont des bateaux ?»«
Certainement, » sourit Jean-Marc. « Mais les postes de contrôle sont à terre, au Brenet, au col des Roches, ou sur chaque pont. Par exemple, à Biofond et Gaumois. Plus bas, il y a aussi le barrage du Châtelot. » Son fils n'écoutait pas. Il regardait le paysage lunaire. Habituellement, le Doubs sourd sous la roche calcaire, et les rivières souterraines jaillissent et disparaissent, creusent des grottes. Les savants appellent cela un terrain karstique. Mais cette année-là, le spectacle était celui de la désolation. Le niveau de l'eau était au plus bas. Le belvédère s'ouvrait à perte de vue sur de longs bancs sablonneux, où les poissons pourrissaient au soleil dans une odeur pestilentielle. Les Detwiller poussèrent leur balade jusqu'à la grande chute, qui n'avait plus de grande que le nom. Nicolas lança dans l'eau une feuille de platane en guise de bateau improvisé, mais le faible courant ne l'emporta pas. Elle resta coincée entre deux cailloux. Déçu, il se tourna vers sa mère.
« J'ai faim !»
Ils rebroussèrent chemin jusqu'au Brenet pour pique-niquer. Jean-Marc avait annoncé un endroit paradisiaque, connu de lui seul. C'était au fond du vallon, quand la rançonnière descend de l'encorbellement du tunnel du col des Roches jusqu'au Doubs. L'endroit n'est plus fréquenté depuis qu'on y a construit une usine électrique. Mais à un point précis de la falaise, une résurgence s'ouvre sur une petite cascade qui se vide dans un bassin d'eau claire. Jean-Marc y jouait souvent lorsqu'il était enfant. Il chargea Elisa de surveiller son frère pendant qu'il préparait un petit feu symbolique pour la torée. Valérie, sa femme, installait une couverture en retrait sous un sapin. Elle tira du sac le livre que tout le monde lisait depuis le printemps, « L'aigle de sang », un polar suisse qui se déroulait en Suède. Il le lui avait offert pour la fête des mères. Valérie était une fan absolue de l'auteur, Mark Waltenhauer. Les enfants pataugeaient et riaient en passant sous la cascade. Patiemment, Jean-Marc attendit que les flammes transforment le petit tas de bois en cendre incandescente, pour y enfouir les saucissons neuchâtelois emballés dans du papier journal. Soudain, il y eut un cri strident. C'était la voix de Nicolas. Jean-Marc lâcha la branche qui lui servait de tisonnier et se précipita vers le bassin. Son fils était debout devant la vasque. Il tremblait. Valérie les avait rejoints.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
criait-elle.
« La montagne ? Elle a craché du sang ?»
Il pensa en même temps la même chose que Valérie, leur fille. Ils se mirent à courir dans le petit bassin, à la chercher en battant des mains la surface. La panique les gagnait.
« Elisa !»
hurlait sa mère.
« Je suis là, » répondit une petite voix timide.
Elle était apparue derrière la cascade. Le débit de la chute commençait à se tarir, comme d'un robinet qu'on fermerait. Quelque chose bouchait la source. Les cheveux d'Elisa étaient sales. Elle semblait pétrifiée.
« Sors de là !»
hurla Valérie. Avant qu'elle n'ait le temps d'obéir, un grondement sourd émana des entrailles de la terre. La source se mit à vomir de la boue par saccades. Puis, la pression fit éclater la paroi rocheuse. De nouvelles failles laissaient s'échapper l'air en bulle et la vapeur dans un sifflement strident. Jean-Marc s'était précipité sur sa fille. Il l'arracha du bassin, hurla à sa femme et à son fils de fuir, mais il n'avait pas l'air décidé à bouger et reculait lentement, comme à regret, sans quitter des yeux la source en colère.
« Elisa, tu es blessée ?»